Vous écoutez, on lit pour vous.
Hériter du gène de la dépression. Une affaire de fille? Un texte de Brigitte Hébert-Carl, paru le 10 avril 2025 dans Urbania. J'ai déjà fait une dépression. Il y a une vingtaine d'années, je finissais mon bac dans un programme qui ne m'intéressait pas. Je devais chercher un emploi pour payer moi-même mon appartement et je vivais ma première grande peine d'amour. Trop de choses en même temps. J'ai fini par m'effondrer. Quand mes parents se sont séparés, j'ai vu ma mère dans un état semblable. Elle a flirté avec les idées noires pendant un moment. Y a-t-il un lien entre son état et ce que j'ai vécu? La dépression se transmet-elle? Comme un héritage inscrit dans nos gènes? Une étude de la neurophysiologiste Fumiko Hueft de l'Université de Californie à San Francisco, USCF, parue dans le Journal of Neuroscience en janvier 2016, explique que justement cette transmission intergénérationnelle. Et je ne parle pas ici de la recette de sauce à spaghetti familiale de ma grand-mère Rachel, mais bien d'émotions comme la dépression. Maman, je vais être maman. Quand j'ai annoncé à ma mère que j'étais enceinte, j'ai senti que derrière sa joie se cachait une forme de crainte. Sur le coup, j'ai cru qu'elle doutait de moi, de ma capacité à m'occuper d'un autre être humain. J'aurais préféré qu'elle voie en moi une future mère parfaite. J'avais certainement besoin de me sentir en possession de mes moyens, parce que moi aussi, à l'intérieur, je tremblais. En rétrospective, je pense que ma mère voulait tout simplement m'éviter bien des difficultés, des tempêtes, des ouragans même. Parce qu'elle savait peut-être trop bien, mieux que moi, que je partageais son ADN et que j'allais vivre des montagnes russes d'émotions. L'équipe de chercheurs de l'UCSF a découvert que le cerveau des mères et des filles semble être particulièrement lié dans une zone très précise, le système cortico-limbique. Ce dernier régule et traite les émotions et joue un rôle dans les troubles de l'humeur. Les scientifiques suggèrent qu'elle pourrait être en partie héritée de mère en fille, ce qui expliquerait une prédisposition accrue à des troubles comme la dépression. En effet, la dépression, l'anxiété et autres petits bobos du cerveau se transmettraient à travers un circuit cérébral commun. Donc, chaque fois que j'ai peur de transmettre mes angoisses à ma fille ou de retrouver en moi certains réflexes de ma mère, ce n'est pas juste une lubie. C'est bel et bien en train de se passer. Du cerveau aux émotions. Fumiko Hueft a mené son étude sur 35 familles en bonne santé et à l'aide d'IRM. Imagerie par résonance magnétique. L'équipe a pu observer les cerveaux des mères et de leurs enfants. Ce qui est fascinant, c'est que l'association entre le volume globulaire moyen du système cortico-limbique des mères et des filles était significativement plus forte que celle entre les mères et les fils, les pères et les fils et les pères et les filles. Traduction libre. J'ai toujours su que j'avais un lien privilégié avec ma mère, en plus de partager son nez aquilin. Mais la science le confirme. Il y a quelque chose de spécial qui se passe dans les cerveaux de mère en fille. La génétique a ses limites. Les statistiques sont éloquentes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, à l'échelle mondiale, environ 280 millions de personnes souffrent de dépression. La dépression est 50 % plus courante chez la femme que chez l'homme. Dans le monde, plus de 10 % des femmes enceintes et des femmes qui viennent d'accoucher souffrent de dépression. Mais avant de penser qu'on est condamné à vivre avec les troubles émotionnels de notre mère ou à les transmettre à nos filles, rassurez-vous. Oui, la génétique a une influence, mais ce n'est pas tout. De nombreux facteurs jouent un rôle dans la dépression. Des gènes qui ne sont pas hérités de la mère, l'environnement social et les expériences de vie, pour n'en citer que trois. La transmission mère-fille n'en est qu'un aspect, explique la docteure Hoft. Si la génétique peut prédisposer certaines femmes à ces troubles, elle n'est pas la seule responsable. La transmission mère-fille n'est qu'un élément parmi d'autres. Certaines situations, comme les traumatismes dans l'enfance, menaces, abandon, violence, abus, ou les événements difficiles de la vie adulte, un décès, une perte d'emploi, une séparation, sont aussi associés à un risque accru de dépression. Une prédisposition ne signifie pas une fatalité. La transmission de l'anxiété. Ma mère a consulté à gauche et à droite, mais ça n'a jamais été une priorité pour elle. Elle s'est toujours considérée trop vieille pour changer, un peu comme une condamnation. De mon côté, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour tenter de s'améliorer ou de mieux se comprendre. Alors oui, certains traits se transmettent plus facilement de mère en fille, mais les mentalités, elles, évoluent. Et même si une étude publiée dans Frontiers in Psychology a révélé que les milléniaux et les membres de la génération Z signalent une augmentation plus importante des symptômes de troubles psychologiques, notamment des troubles anxieux, par rapport aux générations plus âgées, les milléniaux seraient deux fois plus susceptibles de reconnaître que leur santé mentale se porte mal par rapport aux baby-boomers. Traduction libre. Si ça continue comme ça, ma fille sera sans doute encore plus à l'écoute d'elle-même que moi, et elle prendra en main sa santé mentale encore plus tôt. Comme quoi, parfois, on peut donner un petit coup de pouce à la génétique. C'était « Hériter du gène de la dépression, une affaire de fille ?» Un texte de Brigitte Hébert-Carl, paru le 10 avril 2025 dans Urbania.
Fin de l'éclosion de rougeole au Québec, un texte de Catherine Desautels de la presse canadienne paru le 22 avril 2025 dans Le Devoir. L'éclosion de rougeole qui a débuté en décembre 2024 au Québec a officiellement pris fin, a confirmé le ministère de la Santé. La situation est tout autre du côté de l'Ontario, qui recense plus de 900 cas. La propagation s'était stabilisée au Québec depuis les dernières semaines, le dernier cas enregistré remontant au 18 mars 2025. Le Québec a confirmé 40 cas de rougeole au cours de cette éclosion, dont la grande majorité, 32 cas, dans les Laurentides. Selon les paramètres techniques du gouvernement sur la gestion des cas, des contacts et des éclosions de la rougeole au Québec, la fin de l'éclosion est fixée au 32e jour suivant la dernière présence du dernier cas contagieux dans un milieu. Cette durée a été déterminée sur la base de deux périodes d'incubation moyenne, c'est-à-dire deux périodes de 14 jours, en plus de la période maximale de transmissibilité de 4 jours après l'apparition de l'éruption cutanée. La rougeole est une maladie très contagieuse dont les principaux symptômes sont une fièvre importante, une toux, un écoulement nasal, des yeux rouges et de rougeur au visage, puis sur le corps. Cette maladie peut toutefois entraîner des conséquences graves sur la santé des personnes vulnérables, en particulier les bébés qui ne sont pas encore vaccinés. Au Québec, le calendrier vaccinal prévoit que les enfants reçoivent le vaccin à 12 et 18 mois, mais celui-ci peut être administré gratuitement à tout âge. La couverture vaccinale pour les élèves du primaire et du secondaire pour l'année scolaire en cours 2024-2025 se situait autour de 90 % au début du mois de mars, mais le ministère de la Santé s'inquiétait de retards vaccinaux chez les tout-petits et certaines populations adultes. Pour tenter de limiter la propagation au Québec, la santé publique s'est assurée de rejoindre les personnes qui avaient été en contact avec les cas déclarés pour les informer d'être vigilants à l'apparition de symptômes et les inviter à se faire vacciner si ce n'était pas déjà fait. Le Québec avait été l'épicentre de la transmission au pays lors de la dernière éclosion, au début de l'année 2024. Cette fois-ci, il semble s'en être mieux tiré que d'autres provinces. L'Ontario, en particulier, a enregistré en date du 16 avril 924 cas de rougeole, soit 798 cas confirmés et 126 cas probables. Santé publique Ontario indique qu'il y a eu 69 hospitalisations liées à l'éclosion, dont 65 personnes qui n'étaient pas vaccinées, y compris 53 enfants. Le reste du Canada n'est pas épargné, quoique la propagation dans les autres provinces touchées semble être bien moins importante qu'en Ontario. L'Alberta connaît toutefois une propagation préoccupante avec un total de 89 cas sur son territoire. La Saskatchewan compte 8 cas selon les plus récentes données. Le Manitoba et la Colombie-Britannique avaient aussi une poignée de cas de confirmés et probables. Récemment, les autorités sanitaires de l'île du Prince-Édouard ont annoncé avoir enregistré 2 cas de rougeole, les premiers dans la province depuis 2013. C'était « Fin de l'éclosion de rougeole au Québec », un texte de Catherine Desautels de la presse canadienne paru le 22 avril 2025 dans Le Devoir.
Réparer au lieu de recycler. Un texte de Sarah Champagne paru le 27 avril 2025 dans la presse. Des entreprises d'économie sociale haussent le ton pour détourner du bac bleu ce qui peut être réparé. Ordinateurs, tablettes, cellulaires, électroniques, vêtements. La liste des produits de consommation qui peuvent être réutilisés au lieu d'être jetés est costaude. Sans lever le nez sur la réforme du recyclage au Québec, une cinquantaine d'entreprises font front commun à travers la création d'un réseau pour créer un boom de l'économie circulaire. La presse avait rendez-vous au cœur des installations Angus de Rosemont, dans un atelier de réparation établi dans la rue Molson. Bienvenue chez Incertec. Ici, on peut acheter un bon ordinateur portable pour seulement 200 $. Sans devoir payer les taxes, puisqu'il s'agit d'une entreprise à but non lucratif qui retient les services de jeunes adultes sans emploi, formés sur place, des réparateurs en devenir. Certains finissent par acquérir assez d'expérience pour décrocher une équivalence scolaire d'opérateur informatique. Ils bénéficient d'un soutien psychosocial. On estime que jusqu'à 86 % des ordinateurs dont les entreprises se défont, peuvent être reconditionnées, nous dit Marie-France Bellemare. La dirigeante d'Incertec nous offre une tournée de l'atelier. Premier arrêt de notre visite, le comptoir de réception des vieux appareils informatiques. Incertec travaille à convaincre les entreprises de donner à la réparation plutôt qu'au recyclage. C'est ce qu'on appelle de l'entrepreneuriat collectif. un jeune employé, Carl Fortier, issu d'un programme de réinsertion sociale, trie les ordinateurs à la réception. Les appareils sont répertoriés dans une base de données. Les disques durs vont d'un côté, les cartes de circuit de l'autre. Il y a les tours, les écrans, les fils, les claviers et les souris à départager. Entre 100 et 1000 appareils sont triés chaque jour. Plus loin, il y a la zone d'effacement de données. C'est le grand nettoyage. François Jacques supervise les opérations. Il explique qu'une équipe est chargée du reconditionnement des ordinateurs. Autour, des employés s'activent, dont Pierre Coulanges, qui a rejoint l'équipe il y a 4 mois. Il faut tester les systèmes d'exploitation, les configurer, effectuer un contrôle de qualité. Chez Insertec, au moins 3 appareils sur 4 sont reconditionnés et vendus au lieu d'aller à l'enfouissement. À l'instar d'une 50aine d'entreprises sociales du Québec, Insertec fait partie d'un nouveau regroupement visant à insuffler de l'énergie à l'économie circulaire. Ce regroupement a été baptisé le Réseau des entreprises d'économie sociale et circulaire du Québec, REESCQ. Son but? Que la gestion des déchets ne s'organise pas qu'autour du recyclage. Parmi les autres entreprises membres du réseau, on compte le groupe Coderre, établi au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Outre la collecte des déchets dans près de 40 municipalités, l'entreprise d'économie sociale consacre ses surplus à extraire l'aluminium des produits réfrigérants pour le vendre en granules. Avec son chiffre d'affaires de 16 millions en 2023, le groupe Coderre a entrepris de lancer un premier chantier de construction de 60 logements abordables pour les citoyens d'Alma. L'organisme sans but lucratif pilote une friperie ainsi qu'une quincaillerie de réemploi. Piètre figure en réemploi. Selon Jacob Hommel, directeur des affaires publiques du chantier de l'économie sociale, porte-voix de plus de 11 000 entreprises, le Québec fait vraiment piètre figure en réemploi. L'organisme a chapeauté la création du REESCQ avec un plan d'action et une tournée provinciale auprès d'importants acteurs de l'économie sociale. Avant de recycler, on devrait penser à réparer, au réemploi, à l'économie circulaire, selon Jacob Hommel, directeur des affaires publiques du chantier de l'économie sociale. Le gestionnaire cite l'exemple de l'entreprise de vêtements usagés Renaissance, dont les surplus sont investis pour stimuler la recherche en défibrage. L'objectif, c'est de développer une machinerie, une nouvelle technologie, pour récupérer la fibre des vêtements. Malheureusement, les entreprises sociales n'ont pas droit au crédit d'impôt en recherche et développement. On espère que le réseau va permettre de nous faire entendre auprès des gouvernements. Il faut cesser d'envoyer nos rebuts vestimentaires dans des dépotoirs de l'Afrique. Bâtir la résilience. Chez Insertec, Mme Bellemare insiste sur la qualité des ordinateurs vendus, des services techniques offerts. Grâce à une subvention d'Action Climat, l'entreprise prévoit de déployer des activités dans plusieurs régions du Québec afin d'accélérer le réemploi des appareils informatiques. Nos produits sont de qualité, affirme-t-elle. Il faut arrêter d'acheter du neuf à tout prix. Il y a une méconnaissance de nos entreprises, de ce qu'elles offrent. On espère que le réseau va nous permettre d'avoir accès aux politiciens, à des discussions avec les grands décideurs. Parlant d'un service méconnu, une partie de l'atelier de l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie est consacrée à résoudre les bugs informatiques des citoyens sur place, en ligne ou à distance. L'entreprise offre des blocs de soutien technique de 30 minutes à prix modique. Un service de location est aussi offert. Dans 90 % des cas, les gens appellent pour des virus, des messages de fraude. C'est assez facile à régler. C'est rare qu'un problème ne se règle pas à l'intérieur de 30 minutes, explique un employé fièrement à l'ouvrage. C'était réparé au lieu de recycler, un texte de Sarah Champagne paru le 27 avril 2025 dans La Presse.
Une place à prendre en gestion de patrimoine. Un texte de Marie-France Letourneau, Judith Lachapelle et Éric Martel, paru le 30 avril 2025 dans La Presse. Les femmes sont plus nombreuses qu'avant à travailler dans le milieu financier québécois. Mais certains secteurs, comme la gestion de patrimoine et d'actifs, demeurent des bastions masculins. Pourtant, les femmes y ont un rôle à jouer, estiment des expertes. C'est aussi ce que croit André-Ève Dionne, conseillère en gestion de patrimoine depuis 3 ans à Québec, sous l'enseigne de la Financière Banque nationale. Madame Dionne estime être sur son X. Et elle aimerait que plus de femmes s'intéressent, voire découvrent, ce secteur financier. À la Financière Banque nationale, les femmes représentent environ 20% des conseillers en gestion de patrimoine, dit-elle. Et ce n'est pas parce qu'on n'en veut pas, mais historiquement, c'est un domaine qui a plus intéressé les hommes. Peut-être à cause des maths. Les femmes sont sous-représentées dans la profession, confirme l'Institut de planification financière, dont il faut réussir l'examen pour porter le titre de planificateur financier au Québec. Actuellement, il y a environ 5000 planificateurs financiers au Québec, dont 38% sont des femmes, relève la présidente directrice générale de l'Institut, Chantal Lamoureux. Malheureusement, je remarque que les dernières cohortes sont en bas de ça. Ça ne tend pas à augmenter. C'est un peu désolant, poursuit-elle, parce que s'il y a une profession que je trouve intéressante pour les femmes, c'est en planification financière. Ça allie le défi intellectuel à l'accompagnement des clients. C'est assez unique d'avoir ces deux aspects-là. André-Ève Dionne a occupé différents postes à la Banque nationale, notamment au service aux entreprises, avant d'opter pour la gestion de patrimoine. Différentes mesures sont mises de l'avant par son enseigne pour favoriser la présence des femmes dans ce secteur, dit-elle. Mais cela ne semble pas suffire. Frein important. Selon la présidente du conseil d'administration de l'Association des femmes en finance du Québec, AFFQ, Saoula Benkouya, la culture de ce secteur, aux allures de Boys Club, demeure un frein important à une plus grande représentativité féminine. Il y a beaucoup d'efforts pour atténuer la culture, mais elle reste bien présente, estime Madame Benkouya, vice-présidente au placement privé et investissement d'impact au Fonds de solidarité FTQ. La culture de ce milieu est peu accueillante, compétitive, et les attentes sont très élevées. La méconnaissance qui entoure le domaine de la planification financière est un autre frein, estime Chantal Lamoureux. Il y a plein de contextes de pratiques différents, précise-t-elle. Certains planificateurs sont à leur compte, d'autres sont travailleurs autonomes, mais rattachés à une enseigne. Il y en a aussi qui sont des employés salariés à plein temps pour une institution financière. Chose certaine, le télétravail, populaire depuis la COVID-19, peut nuire aux femmes qui souhaitent voir leur carrière progresser, préviennent les deux expertes. En étant moins présentes, donc moins visibles, elles vont être staffées, confinées à des rôles de soutien plutôt que directement liées aux décisions et aux opérations, ou amenées à travailler sur des projets peut-être moins prestigieux
avance Saoula Benkouya. Le télétravail est un couteau à deux tranchants, renchérit Chantal Lamoureux, de l'Institut de planification financière. Pour progresser, il faut sortir de chez soi, être vu et voir du monde. Dans cet esprit, la rétention des femmes en mi-carrière est un autre enjeu du milieu financier, dit la présidente du CA de l'AFFQ. Appelées à faire davantage de représentations, souvent en soirée, elles doivent jongler avec une logistique familiale plus complexe, fait valoir celle qui a elle-même trois enfants. André-Ève Dionne reconnaît qu'inscrire l'ensemble des activités dans l'agenda familial ressemble parfois au jeu Tetris. Mais la mère de famille de 41 ans dit partager les tâches avec son conjoint et être bien entourée. Ça ne devrait pas arrêter les femmes, au contraire, laissent-elles tomber. Finances à prendre en main. Quoi qu'il en soit, une plus grande présence féminine dans le secteur de la planification financière ne peut qu'être bénéfique, ne serait-ce que pour inciter davantage les femmes à prendre en main leur avenir financier, souligne la présidente du CA de l'AFFQ. D'ici 2030, les femmes vont contrôler 30 000 milliards d'actifs personnels, relève Saloua Benkouya, en citant des données de la firme McKinsey. Il y a encore beaucoup de femmes qui, même si elles ont des revenus supérieurs, laissent les finances entre les mains de leur conjoint, constate André-Ève Dionne. C'est un peu une mission que je me suis donnée, amener les femmes à s'intéresser à ces questions-là. C'est tellement important. Selon Mme Benkouya, une importante vague de départ à la retraite de conseillers financiers est à prévoir dans 10 ans. C'est une belle opportunité pour que les femmes prennent leur place, dit-elle. Et la relève, elle est là. Davantage de femmes sont inscrites dans les programmes universitaires de finances, souligne-t-elle. Il ne reste qu'à faire connaître davantage certains secteurs, comme celui de la gestion de patrimoine. C'était Une place à prendre en gestion de patrimoine, un texte de Marie-France Letourneau, Judith Lachapelle et Éric Martel, paru le 30 avril 2025 dans La Presse.